Chers frères et sœurs, c'est donc dans l'action de grâce que nous sommes rassemblés ce soir dans cette cathédrale pour clôturer ce grand jubilé de la miséricorde qui s'achèvera en fait dimanche prochain à Rome lorsque le pape François refermera la porte sainte dans la basilique Saint-Pierre du Vatican. Sans doute que nous ne refermerons pas pour autant de sitôt la porte de la miséricorde, dont nos portes saintes ne sont que le symbole. Comme disait déjà sa sainteté Saint Jean-Paul II, en fermant la porte sainte du grand jubilé de l'an 2000, le 6 janvier 2001, tandis que se ferme un symbole du Christ, la porte sainte, le cœur du Christ reste plus que jamais ouvert. Ce cœur du Christ qui a tant aimé les hommes et qui n'en a reçu qu'ingratitude. Cet amour infini dont nous avons fait une expérience renouvelée au cours de cette année sainte extraordinaire de la miséricorde, blessée par nos péchés et nos ingratitudes, qui n'exhale pourtant pas dans sa blessure de l'amertume, de la rancœur, de la colère, de la vengeance, mais au contraire, le sang et l'eau, ce flot impétueux de l'amour de Dieu à travers l'économie sacramentelle de l'Église qui est appelée à se répandre sur le monde entier, assainissant tout sur son passage, faisant fructifier toutes sortes d'espèces d'arbres qui donneront leurs fruits en toute saison. Oui, l'année sainte extraordinaire de la miséricorde va s'achever. Mais l'année de grâce que Jésus a initiée par son mystère d'incarnation-rédemption va continuer à se dérouler dans l'histoire des hommes jusqu'à la fin des temps. En même temps que nous rendons grâce pour tous ces dons que nous avons reçus, pour toute cette expérience de la miséricorde que nous avons vécue, peut-être une expérience de réconciliation avec quelqu'un dont nous étions divisés, avec qui nous avions rompu le lien d'amitié. Nous allons capitaliser ce trésor que nous aurons accumulé tout au long de cette année. Les dons spirituels que nous avons reçus demeurent, et comme je vous invite aujourd'hui à garder l'un de ces dons spirituels les plus merveilleux, dont nous avons renouvelé l'expérience à la demande même du pape François tout au long de ce jubilé. Je veux parler du sacrement, de la pénitence et de la réconciliation, que le pape François, par des paroles répétées, des gestes significatifs, a voulu remettre au centre, au cœur de notre vie chrétienne, au centre de nos communautés chrétiennes. Comme je le dis si souvent, et je le répète aujourd'hui, si nous n'avions pas tant déserté ce sacrement de la pénitence et de la réconciliation dans la vie de nos communautés, il y aurait moins de ruptures dans les couples, de divisions dans les familles, y compris chrétiennes, de division dans nos presbytériums, dans nos communautés chrétiennes, dans l'Église et dans le monde. Prenons la résolution, chers frères et sœurs, alors que la porte sainte va être désormais fermée, de franchir souvent, secrètement, régulièrement, cette porte de la miséricorde, qui est la porte du sacrement, de la pénitence et de la réconciliation. Et tâchons, dans notre vie concrète, après avoir fait l'expérience renouvelée de la miséricorde du Seigneur pour chacune et chacun d'entre nous, d'être dans nos vies ordinaires miséricordieux avec les autres, miséricordieux comme le Père. C'est toujours le temps de la miséricorde. Et pourtant, lorsque l'on entend l'Évangile qui vient d'être proclamé en ce 33e dimanche du temps ordinaire, qui nous fait, alors que nous acheminons vers le terme de l'année liturgique, méditer, comme chaque année à pareille époque, sur le fameux discours eschatologique de Jésus, aujourd'hui en Saint-Luc, au chapitre 21 de son évangile, où il nous parle précisément des fins dernières, de ce qui doit advenir à la fin, quand il reviendra dans la gloire, pour mettre un terme à l'histoire des hommes et juger les vivants et les morts, comme nous le proclamerons encore dans quelques instants, dans notre credo. Discours grave et contrasté, où Jésus annonce à la fois et de manière mêlée ou enchevêtrée la fin du monde, quand il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et la destruction de Jérusalem, que les disciples de la première heure verront eux-mêmes, emblématique de la fin d'un monde qui n'en finit pas de finir, ce monde extérieur, comme nous dit saint Luc, qui s'en va inexorablement vers sa ruine avec tous ces événements qui constituent la fin d'un monde et que Jésus appelle comme les signes avant-coureurs de la fin du monde, de son retour dans la gloire, lorsqu'il mettra un terme à notre histoire. Ces événements qui se sont déroulés tout au long de l'histoire depuis l'avènement du Christ et jusqu'à la fin des temps, qui sont, n'est-ce pas, d'une brûlante actualité quand nous les lisons dans l'Évangile. Il suffit d'ouvrir le journal télévisé pour voir tous ces événements d'une brûlante actualité nous rattraper à notre génération. Les guerres, les soulèvements, les épidémies, les famines, les tremblements de terre encore très récemment en Italie, l'ouragan qui s'est abattu sur Haïti, mais aussi les persécutions, pas seulement à l'heure des premiers chrétiens, ce fut l'heure en effet des martyrs par excellence, mais nous le savons bien qu'en ce 20e siècle et ce 21e siècle commençant, l'Église est redevenue l'Église des martyrs. Peut-être, comme le dit le pape François, à la suite de ses immédiats prédécesseurs, qu'il y a plus de martyrs aujourd'hui, depuis le XXe siècle, qu'il n'y en a eu au cours de toute l'histoire de l'Église qui a précédé. Et les persécutions sournoises dans nos pays dits libres, pas seulement mourir en haine du Christ, en Irak ou en Syrie, et jusque sur notre terre encore très récemment, avec l'assassinat en haine de la foi du père Jacques Hamel dans son église, au pied de l'autel où il venait à peine de célébrer le saint sacrifice de la messe et de tenir dans ses doigts l'agneau de Dieu, l'agneau immolé qui enlève les péchés du monde. Mais toutes ces persécutions sournoises contre la liberté de religion et de culte, contre la liberté de conscience, tout ce que nous dit Jésus, qui a lieu encore aujourd'hui, tenez, des parents qui peuvent porter plainte devant les tribunaux pour contester la vocation contemplative de leur fille et réduire cette forme de vie consacrée, multiséculaire, à ce que le monde appelle lâchement une dérive sectaire. Comment interprétons-nous ces événements, chers frères et sœurs? Nous qui sommes peut-être plongés dans la désillusion et le désenchantement, qui rêvions d'un monde meilleur, alors que nous étions enfermés dans le mythe du progrès à cause de ces trente glorieuses que nos pays, en tout cas développés, ont connues tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, mais ce mythe du progrès qui a volé depuis lors en éclats sous nos yeux. Penserons-nous pour autant que ces événements nous rapprochent de la parousie? Jésus nous défie de le croire. Ceux qui vous diront « le moment est tout proche », n'allez pas derrière eux. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, et ces événements qui sont emblématiques de la fin d'un monde extérieur qui s'en va inexorablement vers sa ruine, ces événements ont existé tout au long de l'histoire et touche nécessairement aussi notre génération. Faut-il y voir un châtiment ? Comme certains le pensent, face à l'impiété des hommes, nous disant que le jour de la colère, le jour de la vengeance, le jour du jugement est proche. Ce jugement dernier, qui a été annoncé par les prophètes, comme nous l'avons entendu dans la première lecture tirée du prophète Malachie, que Jean-Baptiste aussi a annoncé, pensant même que l'avènement du Christ, qu'il était venu manifester à Israël, était le temps fixé par Dieu pour le jour de sa colère, de sa vengeance et du jugement dernier. Mais rien de tout cela, chers frères et sœurs. Avec Jésus, le jugement dernier a été en effet différé à la fin du monde, à la fin des temps, avec Jésus, son avènement, avec son Église, qui est Jésus-Christ, répandu et communiqué à travers le monde et le temps. C'est l'heure de la miséricorde. C'est le temps de la miséricorde. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre ces événements, avant-coureurs sans doute, de la fin des temps, du retour du Christ dans la gloire, comme une interpellation pour nous chrétiens et comme une responsabilité grave pour faire advenir un monde nouveau, des terres nouvelles, des cieux nouveaux qui s'accompliront pleinement à la fin des temps, mais qui commencent déjà aujourd'hui dans les cœurs. Le Christ Jésus n'est pas venu dans le monde pour faire un monde meilleur. Il est venu dans le monde pour faire un monde nouveau. Il a donné une loi nouvelle, un commandement nouveau, un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est la loi de l'amour. C'est la loi de la miséricorde dont nous sommes appelés à être particulièrement les témoins et les instruments dans ce monde qui a tant besoin de réconciliation, qui a tant besoin d'espérance, qui a tant besoin de purification et de pardon. Nous allons franchir à nouveau, mais dans l'autre sens, la porte de la miséricorde, prêt à témoigner, à rendre compte de notre espérance devant tous ceux qui nous en demandent raison, en annonçant cet évangile de la miséricorde à toute la création, mais aussi en étant des signes concrets, humbles, de la miséricorde, à travers ces fameuses œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle que le pape François a puisées dans le trésor immémorial de l'Église pour les remettre dans l'actualité concrète de nos vies chrétiennes. Avant de quitter cette cathédrale, avant de franchir la porte de la miséricorde dans l'autre sens pour retourner dans nos maisons, nos familles, dans ce monde où nous sommes comme des signes levés de cette miséricorde de Dieu, nous allons prendre des résolutions. Nous allons choisir au moins une œuvre de miséricorde corporelle et une œuvre de miséricorde spirituelle pour que le cœur ouvert du Christ puisse continuer à répandre son amour et son pardon sur tous ceux que nous côtoyons. Donnez à manger à ceux qui ont faim. Donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, porter secours aux malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts, et les œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller ceux qui sont dans le doute, instruire les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier pour les vivants et pour les morts. Choisissez, chers frères et sœurs, pour votre vie concrète, une, deux œuvres de miséricorde corporelle et de miséricorde spirituelle et demandez au Seigneur sa grâce pour les accomplir dans votre vie, afin de faire advenir ce monde nouveau, cette civilisation de paix et d'amour qui est notre grave responsabilité. Amen.